question d'Islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de la relation triangulaire entre politique, religion et violence, dans les contextes islamiques bien entendu, avec Farida Sedir. Bonjour.
Bonjour, monsieur Benchir.
Merci infiniment de nous faire l'amitié de venir nous parler de ce sujet. Vous êtes architecte, urbaniste, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, un peu dans une facture d'anthropologie du fait religieux, et vous vous êtes intéressé effectivement à la religion et la politique et le lien de violence, mais dans les contextes urbains.
Absolument.
Alors, à un moment donné, vous mettez en avant un écueil méthodologique, c'est le fait de parler du monde musulman, terre d'islam, les contextes islamiques, les sociétés musulmanes. C'est pour éviter le fameux essentialisme réducteur. Donc, comment avez-vous réglé déjà ce problème ?
Oui, j'ai essayé d'éviter donc l'essentialisme qui consisterait à expliquer que tout ce qui se passe, c'est parce que ça vient de l'islam, voilà. Et en faisant une anthropologie. Donc l'anthropologie, ça veut dire c'est propre à l'homme, à l'être humain. Et donc en regardant la religion du point de vue anthropologique, on est amené à comparer ses effets, quels qu'ils soient, qui pourraient être ceux d'une autre religion sur une autre société humaine.
Est-ce qu'il y a des traits spécifiques à la tradition religieuse islamique ou au monothéisme, si on élargit à la famille abrahamique, ou est-ce que lorsque le sacré se mêle, de fait, on a la politique, la religion ou le sacré, plus la violence, qui deviennent caractéristiques du comportement humain?
Le monothéisme, et à travers l'histoire, a très souvent été en lien direct avec le pouvoir. Et donc j'ai eu l'occasion de faire un peu la comparaison. Et quand il y a eu une forte intrication avec le pouvoir, notamment, par exemple, on pense à l'Inquisition, ça a effectivement généré des violences. Et donc, c'est une expérience historique qui a amené les chrétiens à la sécularisation, à l'obligation de séparer le religieux du politique. Et je pense que nous ne devons pas faire l'économie de ce travail dans nos sociétés musulmanes. Et que ce qui se passe depuis la création de l'État de Médine, c'est une imbrication très forte entre le pouvoir et le religieux, de façon variée selon les époques. Dans l'époque moderne, les choses se sont un petit peu complexifiées parce qu'il y a effectivement, il y a toujours eu des raisons objectives de mener un combat libérateur, puisque c'est un contexte de colonisation. Plusieurs pays musulmans étaient donc sous occupation occidentale. Et c'est vrai que l'islam a joué ce rôle de fédérer les velléités de libération. Donc j'ai regardé ça d'un petit peu près, et donc il y a en même temps une légitimité de se battre pour la liberté, mais avec quels moyens et au nom de quoi ?
Farida Sedir, je ne résiste pas à vous poser la question, puisque je la pose aussi à certaines personnes qui, devant ce micro, évoquent la notion d'État islamique à Médine. Est-ce qu'il y avait vraiment un État avec les prérogatives d'un État et les caractéristiques d'un État, quand on sait que dans cette oasis, il y avait rien d'un État constitué ? Pas de voirie, pas de relais postaux, pas de système pénitentiaire, pas de système judiciaire, pas de cabinet, pas de police, rien de tout cela. Il y avait le prophète comme chef de la communauté, comme arbitre et comme référent premier. C'est que le début ou le noyau de l'État, au sens où nous l'entendons, est venu notamment avec la dynastie Omeyyade et par la suite avec le califat abbasside. Est-ce que on ne cède pas facilement à l'ancienne islamiste de dire que la l'État islamique remonte déjà au temps du prophète.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et j'entendais pas vraiment État dans le sens moderne du terme, et premièrement. Et deuxièmement, c'était une conjoncture de construction. Plus que d'État, je dirais d'une nouvelle société, parce que l'islam est venu révolutionner le monde des bédouins arabes. Et il est venu remettre en question le polythéisme, remettre en question les guerres tribales, remettre en question le sort des femmes, etc. Donc tout ça, ça a pris du temps pour se construire, et c'est vrai que on pourrait parler d'État à partir des Omeyyades. Et oui, je suis d'accord. C'est peut-être trop dire.
Non, c'était simplement pour préciser cela, d'abord pour nos auditeurs et aussi pour que nous comprenions un peu la notion des concepts et des mots qui sous-tendent de vos propos. Et dans cette clarification un peu sémantique, à juste raison, vous mettez l'expression monde musulman entre guillemets dans vos écrits. Les sociétés à référence islamique, c'est ça qui paraît le plus important que de dire l'islam tout court.
Absolument, il y a islam et islam. Chaque société a essayé d'en faire quelque chose, donc c'est vrai que c'est très réducteur de parler de l'islam en croyant que c'est quelque chose de tout à fait unique et de tout à fait homogène, applicable à toutes les sociétés.
D'emblée, allons-y directement à la question. Pourquoi alors il y a une violence terrible, cruelle, qui se déchaîne et qui cherche sa légitimité par la référence islamique?
Oui, vaste question. Dans ma quête de chercher ce lien, je suis passée par plusieurs étapes dans mon livre. Donc, j'ai pensé qu'il fallait essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a ce lien entre le politique et le musulman. Et j'ai essayé de voir ça en focalisant sur la ville, mais pas seulement, parce qu'il y a toujours cette recherche, même dans le monde rural. Et donc, j'ai un peu fait une espèce de découpage historique, dont la charnière se trouve la période coloniale, entre l'avant, le pendant et l'après. Alors pourquoi prendre la période coloniale comme un point charnière? Parce que c'est une période de destruction. Et donc à partir du moment où une société traditionnelle est complètement bouleversée, tout est à reconstruire, tout est à redéfinir. Évidemment, parmi les Algériens,
parce que vous prenez le cas spécifique.
J'ai pris le cas d'Alger, mais c'est valable aussi pour les autres sociétés, puisque le mouvement de Abdou et de El Afrani était bien aussi un mouvement de redémarrer une nouvelle société à partir d'une période charnière qui était la colonisation par l'Occident. Donc le contact avec l'Occident est un moment important, puisque il enlève donc la souveraineté de ces sociétés-là. Et du coup, quand elles doivent se reconquérir, c'est une tentation tout à fait compréhensible de regarder dans la tradition qu'en était-il avant. Donc, on a soit regardé dans la tradition, soit on a imité le modèle occidental, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'il y a donc la théorie de l'État importé, par exemple, que Bertrand Badie théorise. Et il y a la théorie de revenir à nos traditions qui seraient donc islamiques.
Il y a une valeur ajoutée, si je puis dire, dans vos écrits, dans votre ouvrage justement « Ville, religion et politique », c'est que cette relation, que j'ai qualifiée tout à l'heure de relation triangulaire entre la politique, la religion et la violence, qu'elle a une spécificité dans la ville, elle est aussi existante dans le milieu rural, mais le cas citadin lui confère une caractéristique particulière, parce qu'il y a aussi des conflits sociaux ou d'autres approches du conflit et de la violence. Simplement, elles se légitiment par le référent religieux dès lors qu'il y a intrication entre la politique et la religion.
Absolument. En fait, quelle que soit la société humaine, il y a toujours des raisons profanes de se battre et des légitimations d'ordre sacré. Et ça peut être une légitimation religieuse quelque chose d'autre. J'ai pas mal parlé de certains auteurs qui pensent que le sacré, enfin sacraliser quelque chose, du coup en faire une idéologie finalement, ça mobilise. Parce que quand on dit c'est sacré, il faut le faire, ben les foules sont prêtes à suivre.
Si on ne le fait pas au nom de ce sacré,
exactement,
se met au banc même de la société.
Exactement, le sacré est extrêmement mobilisateur. Et donc il y a la religion comme sacré, c'est tout classique. Mais il y a aussi d'autres idéologies qui ont pu être sacralisées, et c'est peut-être ce qu'on appelle la théologisation du politique. Ça a aussi existé. Donc, par exemple, si je parle de la violence nazie, ben, l'idéologie nazie était sacrée pour les Allemands, et elle a justifié tout ce qu'ils ont fait comme horreur. On peut prendre d'autres exemples où d'autres choses étaient sacrées, et ça aboutit au même niveau de violence. Donc, si c'est la religion, c'est quasiment une tradition. La religion chrétienne, en étant sacrée et politisée, eh bien, ça a donné les violences de l'Inquisition, le massacre des Indiens en Amérique du Sud, etc. Et donc, avec l'islam, ben, c'est ces exemples-là, enfin, c'est cette situation-là qu'on retrouve. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. Quand on justifie les actions qui sont en fin de compte politiques, soit à visée de domination, soit à des visées de prédation, soit à des visées de prise de pouvoir, ça se passe beaucoup mieux, on mobilise beaucoup mieux tout le monde en disant mais c'est Dieu qui le dit, c'est sacré.
Alors l'exemple chrétien est derrière nous, et c'est dans le passé, il y a eu des siècles pour cela, il y a eu les idéologies séculières, c'est vrai. Il y a une avancée théologique en contexte chrétien qui a réussi à séparer les deux ordres. Comment se fait-il que de nos jours, qu'on n'arrive pas à désintriquer la politique d'avec la religion en contexte islamique?
Je pense que ça vient du fait que les États de religion islamique sont des jeunes États. Le processus de sécularisation dans le monde chrétien a pris quand même de longues années, si ce n'est des siècles, et que c'est pas quelque chose qui peut se faire rapidement dans le temps. Voilà, premièrement. Et puis, il y a l'histoire propre de l'islam. Il y a une confrontation entre diverses interprétations du religieux, et que cette confrontation, elle est quasiment intrinsèque au texte religieux, puisqu'il y a depuis longtemps la discussion vis-à-vis de l'autorité. On obéit ou bien on exerce son libre arbitre, et que ces questions-là sont assez difficiles à résoudre, et qu'en général, dans l'histoire de l'islam, c'est plutôt on obéit. C'est plus simple d'obéir, sans doute.
Et alors obéir à qui? Aux détenteurs de l'ordre, aux théologiens, au corps des oulémas? À qui doit-on obéir?
À celui qui arrive à devenir chef, en quelque sorte.
Le fait d'arriver à devenir chef est en soi auto-fondateur de la légitimité.
Ça a pu se passer ainsi parce qu'après, il y a les diverses légitimations du maintien de l'ordre, du maintien de l'unité de la Oumma. Enfin, tous ces discours-là qui ont du poids. Il y a aussi la faiblesse en face, peut-être le manque de savoir, le manque dans les populations.
Ça maintenant, c'est-à-dire ces dernières années ou ces dernières décennies. Donc les pesanteurs sociales dues à l'ignorance, à un état de fait de délabrement moral, de manque d'éducation, qui facilite à la fois la collusion du religieux avec le politique, et qui ne travaille que l'intérêt du politique. C'est simplement et quasi exclusivement, j'ajoute quasi par précaution, que pour des intérêts politiques, pas pour l'élévation spirituelle.
Oui, le problème de la spiritualité de l'islam, je pense que ce n'est pas suffisamment mis en avant et travaillé dans ces mouvements-là. Il faudrait aborder l'islam du point de vue spirituel, il faudrait donc plus de savants, plus d'études, plus de recherches, et elles n'ont pas forcément lieu, ces recherches-là. ce qu'on observe, c'est toujours un recours à la tradition de l'islam dans son lien au pouvoir. Il y a moins de travaux de recours à l'islam dans sa spiritualité. Encore que je pense que Abdou et Afrani ont essayé de faire ce travail-là, mais eux aussi, ils pensaient que le retour à la spiritualité et à la pensée islamique refonderait l'individu musulman et le rendrait apte à regarder l'Occident de façon plus, avec une personnalité, de façon moins aliénante.
Oui, vous avez cité deux figures emblématiques de la réforme, du mouvement réformiste de l'islam à la charnière du 19e, 20e siècle, puisque Mohamed Abdou est mort en 1905 et son maître Afrani est mort à la fin du 19e siècle. Farida Sédé, revenons d'abord à votre idée que les États dits musulmans, parce que est-ce qu'un État peut avoir une coloration confessionnelle, sont des jeunes États, mais pourtant il y a des constitutions, ces constitutions-là se veulent plutôt modernes, parfois copiant les modèles occidentaux, mais le plus souvent, si ce n'est l'article 1, on a l'article 2 qui dit que l'islam est religion de l'État. Et depuis quand l'État jeune prie un État, on ne dîne pas avec l'État, comme dit l'anecdote classique. Georges Burdeau dit « moi je ne vois pas l'État ».
Oui, ce n'est qu'une incohérence de plus parmi les nombreuses qu'on peut reprocher donc aux formulations qu'on trouve dans les constitutions d'aujourd'hui. Un État ne peut pas avoir de religion. Un État devrait garantir aux citoyens leur liberté de religion, notamment le libre exercice de leur religion. Il devrait garantir que les êtres vivants dans cet État-là ne se fassent pas la guerre, se respectent les uns les autres, etc.
C'est le cadre formel dans lequel il y a l'exercice libre du culte ou pas, oui. Et l'administration n'est pas captatrice de la conscience des administrés.
Absolument. Et je dirais que même dans l'histoire de l'islam, même dans le livre, il y avait cette obligation de respecter les gens du livre, les autres religions, de leur donner le droit d'avoir librement leur religion. Donc ce n'est pas du tout contradictoire avec l'islam. Et le contexte moderne est d'autant plus compliqué, on va dire, que les sociétés sont très plurielles, que de nombreuses confessions vivent dans le même sol. On peut parler de la France, beaucoup de musulmans sont à l'étranger, donc, et même en Algérie, par exemple, il y a des Chinois, etc. Donc, tous les pays ont tendance à avoir des communautés plurielles. Donc, il n'y a pas lieu, vraiment pas lieu, de dire qu'un État à telle ou telle religion.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec Farida Sédir, nous parlons de cette relation triangulaire entre la politique, la religion et la violence, et tout particulièrement dans les milieux urbains. Elle-même est architecte urbaniste, essayiste, et nous abordons ces questions d'un point de vue de l'anthropologie du fait religieux. Farida Sédir, vous avez dit que c'est peut-être même un trait de cette mondialisation, que les sociétés monocolores sur le plan confessionnel sont de plus en plus réduites ou inexistantes en tout cas. Et alors la sortie de crise passe par la sécularisation de ces sociétés-là ou tout simplement déjà au niveau de l'État comme cadre formel de l'exercice politique, par la désintrication de la politique avec la religion.
Ça passe effectivement pour le moins par la désintrication du politique avec la religion. sachant que ce n'est pas quelque chose de facile, parce que dans les consciences de tout le monde, il y a une croyance très courante. Si je parle simplement des mouvements islamistes, souvent ils disent l'islam ou al-hal, l'islam c'est la solution. Et donc il y a cette croyance que l'islam est, on va dans le texte et on résout tous nos problèmes. C'est pas raisonnable de quel islam déjà.
Oui, mais parce que on a toujours dit que ce slogan était un slogan creux. Parce que d'abord, la solution à quoi? À quel problème? Et quand on dit l'islam est la solution, quand vous dites si bien, lequel, quelle pratique, quelle interprétation, quelle vision, selon quelle école? Puisque l'islam lui-même, si à supposer qu'on puisse parler comme ça, est pluriel, diversifié et composite.
Tout à fait, tout à fait.
Donc... Et alors, on s'était pas rendu compte de, pardonnez-moi le terme, de l'ineptie d'un tel slogan?
Ceux qui l'ont adopté ne s'en sont pas rendus compte. Oui, c'est un slogan inepte. Maintenant, il y a autre chose qui dit, que j'ai essayé de comprendre. Par exemple, Jacques Berck dit souvent que dans l'islam, il y a convergence du profane et du sacré, que l'islam a un rôle dans le social, par exemple, ou avait, et que peut-être ce n'est pas forcément bien de le supprimer, que là, il dit par exemple quelque part la société a besoin de clercs. Enfin, en gros, la question c'est que peuvent devenir les religieux, les principes islamiques dans la vie sociale de tous les jours, dans une société musulmane, tout en n'étant pas dans l'intrication du pouvoir et du politique. Je pense que telle chose est tout à fait possible, parce que c'est au niveau des principes, je veux dire, quand on défend l'égalité, c'est de toute façon, toutes les sociétés humaines ont élaboré des principes, quelque part, de justice, d'égalité, de non-prédation, de non... Donc tous ces principes-là sont d'origine religieuse. Mais les Chinois ont abouti à des principes similaires avec leur sagesse, les chrétiens aussi, les juifs, les Indiens d'Amérique, en parlant du grand Manitou. Toutes les sociétés s'organisent pour respecter des principes qui sont d'origine de leur religion et nous aussi. Donc ils sont dans nos têtes et dans nos cœurs. Ce n'est pas la peine de prendre l'emblème de l'islam pour faire de la politique. D'autant plus qu'il n'existe pas un emblème unique et que chaque interprétation peut amener finalement à des postures tout à fait différentes, voire opposées, et que la solution, c'est le débat.
Farida, c'est dire, c'est peut-être le fait que il y avait au départ, en tout cas, une volonté de réagir à la dictature, au despotisme, à la violence de l'État, à la malversation, à la gabegie, à la concussion, comme les champs de l'action politique étaient réduits, que l'opposition ou les oppositions étaient muselées, on a trouvé dans l'expression religieuse un moyen, effectivement, de réagir et de contenir, voire contrecarrer la violence de l'État. C'est ce qu'on dit, et ça a donné lieu à l'islamisme politique et dans sa violence radicale.
Oui, c'est bien ce processus-là qui s'est passé. C'est ce qui a poussé quelqu'un comme Tahar Ben Saada à dire que l'islam est une théologie de libération, en s'appuyant sur l'exemple donc d'El Afghani et d'Abdou. Mais dans les faits, il y a dans l'islam donc, quand on fait appel aux principes de l'islam de lutte contre l'iniquité, contre l'injustice, il y a effectivement des capacités de mobilisation pour le combat. Ça, c'est le fameux djihad. Les indépendances ont eu lieu sous cet appel-là. Les luttes dans le passé rural de l'Algérie ou au Maroc, soit contre les tribus turques ou contre n'importe quel pouvoir central, se faisaient donc... au nom du religieux, mais c'était des prétextes qui couvraient donc d'autres revendications qui auraient pu être clairement politiques. Mais ça, c'est pas propre aux musulmans, puisqu'il y a ce pouvoir de mobilisation. Mais il faudrait mettre en place des valeurs plus justes, ne serait-ce que pour protéger l'islam de cette intrication politique et à la violence, il faut trouver des raisons de se mobiliser qui soient en dehors de la religion, en considérant que la religion, c'est une spiritualité, c'est une relation plus verticale, qui se salit, quoi, qui se défigure, si elle rentre dans des considérations de liaison de pouvoir.
Oui, qui se pervertit en même temps.
Voilà.
Vous commencez par dire que, en dépit du fait qu'on a considéré les moudjahidines, mots de la même racine que le djihad, donc le moudjahid étant le combattant, et donc de ce fait, vous dites qu'on a restreint le sens même et les différentes acceptions du vocable djihad, lors de la guerre de libération en Algérie, et on a nimbé d'une aura d'héroïsme, donc le moudjahid étant le héros, alors que la révolution algérienne ou la guerre pour le recouvrement de l'indépendance n'avait pas tout à fait une valeur sacrale. Au départ, le congrès de la Soumam était plutôt pour un état laïque, etc. Mais on a emprunté le vocabulaire religieux.
Oui, parce qu'il est mobilisateur des masses. C'est le seul vocabulaire que tous les paysans pouvaient comprendre. C'est cette définition d'une nation moderne et qui va instituer une constitution, des droits pour tout le monde, de l'égalité et tout ça, c'est des concepts qui étaient incompréhensibles pour beaucoup. Et je crois bien que aujourd'hui encore, il y a beaucoup pour lesquels c'est pas encore évident. On a encore besoin du religieux. C'est pour ça que le facteur d'accès au savoir et à la science politique, etc., pour le grand nombre, va arriver au fil du temps à libérer nos sociétés et à faire qu'on comprenne qu'on soit musulman ou pas, on vit dans une même communauté et on doit, pour gérer le pays, mettre en place des lois et que ces lois doivent être discutées. C'est même pas vraiment complètement nouveau quand on pense aux sociétés rurales de l'Algérie, la Kabylie ou d'autres sociétés dans l'Atlas marocain, etc., ou même au Mzab, il y a toujours ces fameuses assemblées plus ou moins laïques qui
et ailleurs aussi, en Afghanistan, avec la Loria Jirga, enfin, il y a ces assemblées qui n'ont pas un caractère sacré, enfin, du moins, on ne se prévaut pas d'un principe transcendant pour organiser la discussion, le débat et émettre des règles de vie communes.
Absolument. Donc, c'est obligé que la solution, ce serait que chacun ait le droit d'intervenir, de mettre en place des mécanismes de participation au pouvoir de tout le monde.
Alors, d'aucuns disent que l'horizon pour la modernité politique, c'est d'organiser l'association politique entre citoyens et elle-même est autofondatrice de sa propre légitimité sans le recours au désir politique de Dieu, par exemple.
Oui, existe-t-il un désir politique de Dieu ? Que serait le désir politique de Dieu ?
Que d'aucuns prétendent l'avoir pénétré, avoir scruté la volonté divine pour l'imposer à leurs semblables.
C'est complètement absurde et disproportionné de dire une telle chose. J'ai eu l'occasion de lire un texte de Baber Johansen qui était très intéressant, qui parlait des juristes hanafites au Xe siècle, je crois, au moment où ils rencontraient en face les modes de réglage des différends dans le monde chrétien, qui faisaient appel à l'ordre d'Ali. Et donc, il disait, le cher Hanafite était choqué de voir que les chrétiens s'attendaient à ce que celui qui soit le plus fort au cours du combat et qui vainque, donc par conséquent, soit déclaré, c'est lui qui a raison, puisque c'est Dieu qui l'a aidé à avoir...
C'est l'ordre d'Ali par le combat, il y a l'ordre d'Ali par le feu, il y a d'autres formes d'ordre d'Ali.
Alors que lui, il considérait qu'évidemment, le jugement de la vérité qui appartenait à Dieu ne pouvait pas être connu des hommes, et donc ils étaient en posture de mise en doute très profonde de leurs propres décisions. Et ça, je trouve que c'est une belle expérience. Et les Hanafites, pendant ces périodes-là, avaient effectivement cette idée que les juges pouvaient juger avec des principes, mais selon leur interprétation, et que donc ils pouvaient parfaitement se tromper. Ils déclaraient pas sacré.
Oui, ça c'est l'école hanafite, une des quatre écoles de l'obédience sunnite. À l'époque, même de nos jours, hélas, dans certaines contrées, même la plupart des contrées où les sociétés vivent majoritairement musulmanes, à l'époque, le droit était confessionnel. La solution n'est-elle pas dans le droit positif et dans la déjuridicisation de la révélation coranique?
Je pense qu'elle est effectivement là. Simplement, le droit positif, quand on établit un droit, il importe peu qu'on l'appelle positif ou coranique à la limite. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit issu du consensus. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit issu de la participation de tout le monde. Si tout le monde se met d'accord sur un principe qui arrive à faire une place pour chacun, il ne peut pas y avoir de problème. Ça importe peu qu'il s'appelle positif ou autrement, je veux dire. Oui. Parce que veut dire positif, en fin de compte?
Dans certaines acceptions, quand on parle du droit d'inspiration coranique, ne serait-ce que pour le statut personnel, la dévolution successorale, l'héritage, on va faire en sorte qu'il y a une approche inique si on continue à donner à la fille une demi-part par rapport à son frère qui a une part entière. Oui. Donc, c'est ça l'idée. Ceux qui militent pour le droit positif sont pour une réflexion générale qui ne lèse pas les citoyens par-delà leur genre, que ce soit les garçons ou les filles.
Je veux bien parler de cet exemple, par exemple, de l'héritage des filles. Comment va-t-on appeler les cas de carrément de déshérédation de la femme? Alors, c'est du positif, c'est quoi?
Mais justement, un droit positif réfléchi et qui reste le résultat d'une réflexion de juristes, hommes et femmes, qui concourent au respect de la dignité humaine et à préserver les droits de l'ensemble des citoyens, n'y aura pas place à ce que la femme soit déshéritée.
Oui, c'est pourtant en contradiction avec un droit islamique. Donc les droits des sociétés humaines doivent être issus du débat. Donc il est certain que l'islam, en apportant le droit aux filles d'hériter alors que les Arabes leur prévoyaient de les enterrer vivantes, était quelque chose de fondamental, de révolutionnaire et pour l'époque. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça peut pas. Ce droit-là, en particulier, cet article-là, ne peut pas évoluer. Donc, cet article, ce code, est plus positif, de mon point de vue, que celui qui avait lieu juste auparavant, ou même celui qui a pu avoir lieu, par exemple, à un moment donné, dans les sociétés villageoises algériennes, on a déshérité les femmes, donc qui étaient en contraire avec le code islamique. Donc c'est pour ça que je n'accorde pas trop d'importance entre cette séparation d'origine divine ou non, parce que finalement le droit divin c'est le droit des hommes. Je veux dire.
C'est-à-dire que ce sont les hommes qui l'interprètent.
Les hommes qui l'interprètent et même même quand Dieu met en place un droit, c'est pour les hommes. Et quand il dit, mis à part les relations, les quelques droits de qu'il y a entre les sociétés, etc., entre les humains, c'est pour dire, bon, si vous vous battez, soyez juste. S'il y a une veuve, ne prenez pas. Enfin, c'est pour mettre. Pour arrêter l'appétit, pour arrêter
enfin, les abus.
Les abus.
Oui, oui,
que
oui.
Que le
oui,
fort
oui.
écrase les faibles, etc. Donc ça continue d'être intéressant. Si on empêche un fort d'écraser un faible, ça importe peu que ça vienne du Coran ou que ça vienne du droit positif. Il faut le faire. Et aujourd'hui, il faut que les gens puissent défendre leurs droits, donc que les femmes puissent défendre leurs droits, que les faibles, les minorités, les pauvres puissent défendre leurs droits au sein des assemblées, et c'est comme ça que qu'on évitera aux uns et aux autres d'être dominés, d'être spoliés.
Oui, mais alors, n'appelle-t-on pas ça simplement la démocratie, ou pas au sens formel du terme, où les 51% font ce qu'ils veulent des 49 autres %, mais une réflexion fondamentale quant à l'exercice du pouvoir, avec l'équilibre des pouvoirs, le partage des pouvoirs, l'alternance au pouvoir, et etc.
Absolument. Donc, on appelle bien ça.
Je veux pas faire une fixation sur l'affaire de la dévolution successorale et l'héritage des filles. J'ai compris que entre le temps où la femme faisait partie du patrimoine allégué, elle faisait partie des biens transmissibles, et l'homme héritait les femmes de son père, hormis sa mère propre, et le fait de faire d'elle une héritière et un progrès spectaculaire, mais figer ces dispositions, comme on le voit dans l'islamisme politique et dans son contre-projet social, comme étant quelque chose qui ne doit pas varier, de nos jours, ça devient inique, alors qu'il faut voir cette visée, cette lecture finaliste et cette lecture vectorielle.
Oui, oui. On peut en dire autant d'autres articles, d'autres codes qui sont d'origine coranique. Il y en a beaucoup qui sont figés.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, dans cet entretien avec Farida Sedik, qui est architecte, urbaniste, essayiste, nous parlons de la relation triangulaire entre la politique, la religion et la violence, particulièrement dans les milieux urbains. Il y a des spécificités aussi pour les milieux ruraux. Farida Sedik, vous vous êtes intéressée notamment lors de la décennie noire à ce qui s'est passé en Algérie et à Alger même, mais d'autres métropoles, d'autres villes ont connu la violence politique dans la coloration de la violence de l'islamisme radical.
Oui. Pour revenir sur le cas d'Alger, après l'indépendance, le pouvoir qui s'est mis en place au nom de la légitimité révolutionnaire, donc, a exercé le pouvoir à sa façon.
En trahison des idéaux pour lesquels la révolution a eu lieu.
Absolument. Donc, il s'est constitué une bureaucratie qui a notamment fait main basse sur la ville et sur les terres, et qui a, pour le cas d'Alger, empêché l'installation urbaine, fait un partage de l'espace très, très divisé, très coloré, avec les beaux quartiers où il y a des villas, des quartiers de luxe qui sont habités par les militaires, les walis, tous les gens qui sont proches du pouvoir.
Les walis étant les préfets.
Les préfets, et que dans les quartiers sociaux sont tassés les populations d'origine modeste, quand ils ont pu avoir leur logement. Et donc, devant cette inégalité d'accès et devant ces territoires, devant donc cette impossibilité même d'accès à l'urbain, s'est développée une filière informelle. C'est ce dont je parle dans une partie de ma thèse. Donc, ce sont les fameux quartiers spontanés où les gens prenaient des terrains privés et les lotissaient. Donc, les propriétaires privés lotissaient leurs terrains et les vendaient, donc sous couvert de, comme on dit, sunna unbi, c'est-à-dire
la sunna du prophète ou la sunna et le prophète.
C'est-à-dire qu'il y a une légitimation religieuse de cet acte qui est en même temps anti-État, puisque l'État déclare que c'est illégal. Donc il y a déjà cette espèce de recours religieux pour justifier des pratiques qui ne sont pas conformes aux lois de l'État, mais parce que les lois de l'État sont inique. Et c'est comme ça qu'on a des hectares et des hectares de terres qui sont lotis par donc des privés qui sont vendus, et des quartiers qui sont nés. Et quand avec les politiques public, il y a l'arrêt de cette possibilité-là avec les lois de 81, la vente des biens vacants, donc une nouvelle... Enfin, tous les gens qui occupaient leurs logements les ont achetés à des prix pas chers. Et il y en avait qui en occupaient plusieurs. Du coup, il y a une espèce de création très rapide d'une classe de nantis. Et que les autres, ceux qui sont auto-construits, étant donné qu'ils étant déclarés illicites, donc ils n'ont pas accès au prix des matériaux de l'État, enfin, ils auto-construisent leur maison, ils la financent de A à Z. Alors que quand on est dans les circuits du pouvoir, on a un terrain presque gratuit, on achète des matériaux pas chers. Enfin, toutes sortes de choses qui ont fait que la société qui a auto-construit s'est retrouvée un peu installée malgré l'État. Et les élections du FIS ont, les élections de les premières élections de 90 ont...
Enfin, du Front islamique du Salut.
Du Front islamique du Salut ont bien vu...
Qui les a remportées.
Donc le Front islamique du Salut a emporté les élections en s'appuyant largement sur ces quartiers-là où il y avait 70% du corps du vote qui venait de là. Il y a deux quartiers principaux, deux typologies de quartiers qui ont été l'électorat principal du FIS, donc les quartiers spontanés et les vieux quartiers du centre trop dégradés. Donc c'est les deux populations qui se sont faites malgré et qui ont survécu. Voilà.
Oui. Enfin, Farida, c'est-à-dire si je vous suis et si j'ai bien compris, c'est que là, il va y avoir une sorte de d'une dissidence qui se fait au nom de la religion, donc la fameuse dissidence islamiste ou l'opposition portée par l'islamisme radical, l'islamisme politique, due à une sorte d'urbanisation contrariée, en quelque sorte, contre l'État, puisque cet État n'a pas rempli son rôle et ses propres lois sont iniques, et que la cité elle-même connaît des enjeux de pouvoir que ne connaît pas la campagne et que ne connaissent pas les milieux ruraux. Mais ça, c'est le cas spécifique de l'Algérie, post-indépendance. Mais est-ce qu'on peut trouver des similitudes aussi? L'islamisme politique sévit ailleurs, il sévit
oui,
au Caire, à Kaboul, il y a la violence islamiste à Bagdad, à Raqqa. Alors, est-ce qu'on a des similitudes du même ordre?
Je connais un petit peu le cas de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie.
Très bien.
Et donc, les insatisfactions urbaines sont fortement liées aux mouvements islamiques qui, régulièrement, dans ces lieux-là, recueillent le mécontentement et essayent de le fédérer au nom du religieux. C'est pour ça que c'était intéressant d'aller voir pourquoi c'est toujours au nom du religieux qu'on fait de la politique. Et s'il y avait d'autres mécanismes d'écoute, par exemple le monde associatif, s'il y avait une possibilité de participation au pouvoir et à la discussion, si je peux discuter de mes problèmes en étant juste une citoyenne, j'ai pas besoin d'aller me référer aux religieux et dire « mais de toute façon, vous êtes un voleur et le vol est interdit par la religion ». J'ai juste à dire « je défends mon droit parce que je suis citoyenne et j'ai des droits ». Dans tous ces pays-là, il n'y a pas encore aujourd'hui de mécanisme de participation au pouvoir. Et donc, c'est une tentation trop grande que de se référer à l'ordre moral et religieux. Parce que ceux qui font les prédateurs, finalement, c'est trop facile de dire ce sont des prédateurs parce qu'ils ne respectent pas les prescriptions divines, en sachant que quand les islamistes parviennent au pouvoir, ils deviennent à leur tour des prédateurs. Et c'est là que tout le monde comprend que ce n'est pas le titre religieux qui met à l'abri de la prédation. C'est des mécanismes de contrôle de pouvoir, c'est des mécanismes de participation. C'est le fait qu'on vote pour quelqu'un et qu'on ait le droit à un moment donné, quand il sort de la bonne voie, de le révoquer, par exemple. C'est toutes les choses qu'on peut mettre dans une constitution. Ce n'est pas le religieux. Le religieux, c'est dans les cœurs. Et les gens peuvent être hypocrites, peuvent dire « moi, je veux respecter, je ferai autrement que celui-là », mais quand ils parviennent au pouvoir, ils ne font pas autrement. Et d'ailleurs, on a participé dans les années 90, pendant la courte période où les mairies étaient islamistes, à une redistribution.
En Algérie.
En Algérie, à une redistribution, c'est-à-dire aux mêmes pratiques de redistribution clientéliste des terres, etc. Et maintenant, ce qui se passe en Algérie est intéressant à plus d'un titre, parce que on a un peu vécu les uns et les autres, et on a l'impression qu'on est, enfin, je suis peut-être optimiste, mais on a l'impression que les gens sont revenus des deux expériences, celle de la légitimité révolutionnaire et celle de la légitimité religieuse, en disant on veut participer au pouvoir.
Et les exemples où les islamistes sont arrivés à gérer les affaires, par exemple au Maroc, la participation du pacte Ennahda en Tunisie, la courte expérience des frères musulmans en Égypte sous Morsi et ailleurs, viendra peut-être au régime des mollahs en Iran. Vous dites que la constante, c'est le comportement des hommes. Soit ils sont sérieux, démocrates, justes et ont à cœur l'intérêt de leurs concitoyens et de leurs administrés. Et dans ce cas, les choses pourront aller bien, et ce n'est même pas la peine la référence religieuse. Soit ils continuent à agir comme des hommes égoïstes, et qu'il y ait ou pas religion, la constante est dans l'éducation des hommes et un peu leur adhésion à l'idéal démocratique.
Oui, il y a leur adhésion, et il y a aussi les mécanismes de contrôle, et les lois, quoi. Et ces lois-là, moi, je veux bien qu'on s'inspire de l'islam ou pour les mettre en place, mais encore faut-il les faire respecter. Et ça, ce n'est pas une réputation. C'est pas à croire.
Mais les
parole.
Islamistes vous disent que c'est aussi dans l'islam qu'il y a lieu de ces fameux mécanismes de contrôle et qu'il faut les respecter. Enfin, selon eux.
Ils ne peuvent pas dire une chose pareille. Il n'y a qu'à voir l'histoire de l'islam pour voir que d'énormes horreurs se sont passées de toutes sortes de façons. Les califes, 300 morts assassinés, tous les siècles
enfin,
suivants
les
étaient...
Enfin, les califes tout premiers, dits orthodoxes.
Voilà, c'est-à-dire la plus belle période. Voilà, comment veut-on remettre en marche une période où il y a eu trois assassinats de califes? Ça prouve bien que ce n'était pas une période si idéale que ça, et sans compter de la suite, donc. Non.
Ça sous-entend que lorsqu'on s'est un peu éloigné de la théologisation de la politique, il y avait un apogée civilisationnel, et on le voit même avec la coexistence des trois grands empires, l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol, et là il y avait toute une tradition de miroir des princes, et on s'est éloigné de la théologie, de la religion, mais on a essayé de trouver une éthique de gouvernement, les choses allaient plutôt bien. Et quand on est revenu à l'instrumentation ou l'instrumentalisation de la religion pour des considérations purement politiques, voire politiciennes, les choses ont regressé et elles regresseront toujours.
Oui.
J'aurais une dernière question pour vous, Fadida Sedik. Revenons au contexte français avec la sécularisation de la société française. Ces mouvements dits islamistes, la crispation, telle une revendication politique ou identitaire, n'est pas du même ordre que ce qui se passait dans ce que vous nous avez décrit. Et alors, quelle est votre appréciation et comment l'expliquez-vous?
Alors, il y a des crispations identitaires religieuses en France, comme il y en a peut-être dans d'autres pays du monde. Ça vient de problèmes plus vastes qui font que les individus sont un peu dans le désarroi. Et que, en période de désarroi, on s'accroche à l'identité pour se faire, on s'accroche à l'identité.
Et donc. Et notamment dans sa coloration religieuse.
Notamment dans sa coloration religieuse. Donc, il y a en France, ou dans le monde, des problèmes, je ne vais pas dire d'intégration, c'est un mot que je n'aime pas.
Et qui n'a pas beaucoup de sens pour ceux qui sont déjà de cinquième génération.
Exactement.
Il n'y a aucune raison pour que cela, on n'arrête pas l'énumération de la génération.
Disons
donc
qu'il y a
les problèmes sont d'un autre ordre.
Disons qu'il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes d'accès à l'emploi, il y a des problèmes de racisme, disons le mot, il y a des problèmes d'injustice diverses. C'est pas facile de faire vivre ensemble des communautés différentes. Il y a la crispation sur l'identité, sur le rejet de l'autre, parce que c'est le bouc émissaire, et ça se passe aussi dans toute l'Europe, et même dans, il y a qu'à voir les résultats des votes, la montée du Front National, etc. Tout ça explique que...
Enfin, on l'appelle maintenant Rassemblement National.
Voilà. Enfin, les mouvements comme ça, quoi. Les mouvements extrémistes de droite qu'il y a aussi ailleurs, en Hollande, enfin partout en Europe. Il y a de réelles difficultés d'approche de l'autre, de celui qui est différent, qui est plus basané, qui, voilà, même s'il est né ici, il est, oui, de quatrième ou cinquième génération.
Oui, mais le musulman n'est pas nécessairement le basané. On a des musulmans allemands vivant en France ou des bosniaques musulmans vivant en France, etc. La réponse serait-elle dans l'universalisme républicain, parce que en dépit de tout, en dépit de la salafisation des esprits, davantage de musulmans d'autres contrées et d'autres pays préféreraient venir vivre en France que de rester dans leur contrée.
Bien sûr. Les musulmans, les Sud-Africains, enfin les...
Musulmans ou pas,
le monde entier préfère venir en France puisque les conditions de vie décente n'existent pas dans tous ces pays-là. Il n'y a pas de démocratie. Il y a des fois la famine, il y a des injustices. Il y a qu'à voir le sort des immigrants qui est un sort extrêmement pénible. Moi, il m'est pénible de vivre une époque où les êtres humains n'ont plus de droit même de vivre, où ils meurent dans les mers, on refuse, comme disent certains, on peut pas accueillir la misère du monde, oui, mais quand même, je veux dire...
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir sa quote-part ou sa participation.
Je veux dire, ils sont plus même traités comme des êtres humains. C'est devenu un délit, presque un crime. En tout cas, ils sont traités comme des criminels. Ils sont dans des centres de retention. Si on les laisse pas se noyer, enfin, il y a une catastrophe humanitaire due à ce décalage entre la vie dans le reste du monde et l'Occident, qui fait que tout le monde essaye d'arriver ici.
Farida Sedir, qu'on arrive au terme de l'émission. Donc les maîtres mots viennent à l'équirépartition de la richesse, à plus de justice sociale. Donc vous étiez plutôt dans la strate de l'explication sociale, sociologisante à la montée du radicalisme, et que la violence est plutôt une violence d'ordre politique qui s'est drapée dans des motifs religieux.
Tout à fait.
Merci de nous avoir expliqué tout cela. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des livres, et particulièrement le livre de Farida Sedir, « Ville, religion et politique », et donc une approche croisée. Et moi, j'ai ajouté l'aspect triangulaire entre la religion, la politique et la violence, ainsi que les références des musiques aussi sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal. Et la réalisation a été assumée par l'ami Vincent Abouchard.